Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 197. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mon collègue...
Pascal Plante. Ouais. J'ai été pris de court. J'ai été pris de court par le manque de Rémi Fréchette. Oui, Rémi Fréchette, Paul, explique-nous ça. Là.
Ben, c'est ça, on a tous un peu des horaires chargés. Puis là, on arrive de Québec. Là, Rémi, il y a comme plein de tournages à faire. Puis des t'es comme bien occupé. Fait que là, il nous a un peu abandonné à la dernière minute. Toi, Pascal, t'as ta valise de prête. Tu pars pour le Japon demain matin pour ton film Nadia Butterfly.
Ouais, le dernier bloc de tournage, il reste pas tant de jours, mais effectivement, il y a, comme la majorité du film se passe narrativement à Tokyo, ben, on n'a pas le choix. Hein? Il faut y aller à Tokyo pour que ce soit crédible. Non, mais fait que c'est majoritairement des extérieurs aussi qu'on tourne là-bas. Puis il y a quand même une couple de scènes importantes. Fait que, tu sais, faut pas. C'est pas fini, là. Faut vraiment aller jusqu'au bout de ce processus-là. Hey, puis toi, Paul, t'as une belle voix feutrée, là. Explique donc à nos auditeurs qu'est-ce qui se passe avec toi, là. Man, tu fais pitié.
J'ai failli abandonner, en fait, cet épisode. Je me disais, comme, si on n'enregistre pas maintenant, ça va être tard. Puis là, je voulais qu'on parle un peu du TIFF puis du FCBQ. Mais c'est parce que la ville de Québec, c'est une ville qui sait accueillir les gens, qui sait fêter. Fait qu'il y a eu beaucoup de fêtes, de karaoké, de rencontres, de balades nocturnes et aussi du vent froid, là, quand même. Là.
Ouais, bon, ben, c'est ça. Hey, ça, c'est de la dévotion pour les gens qui nous écoutent, là, par exemple. On est là, genre, à côté, puis fidèle au poste, podcast, there you go. Non, mais c'est, écoute, regarde, ça va être un épisode chillax, là. On va se faire ça sur la bonne franquette, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis la prochaine fois, ben, évidemment, on sera le trio de retour, là, puis tu sais, il va y avoir le FNC. Ouais. First thing you know, hein, le FNC est à nos portes déjà, là, donc ça aussi, on va avoir plein d'affaires à voir et à dire. Puis aussi, ben, classique, mais cette année, encore plus que jamais, je veux dire, tous les films de l'automne sortent, là, tu sais, c'est comme, c'était la disette 9 mois durant, puis là, les 3 derniers mois, bing, bang, pouf, tout sort, puis on a envie de tout voir. Donc, non, on manquera pas de matériel pour les prochains épisodes.
Tout à fait. Je voulais parler un peu du TIFF, parce que, finalement, c'est pas prévu, mais moi et ma femme, on s'est dit sur un coup de tête, on y va. Fait qu'on s'est pris un Airbnb dernière minute beaucoup trop cher, on s'est acheté des billets beaucoup trop cher, tout ça. Et on a vu quelques films. Et le TIFF, bon, c'est la troisième fois que j'y vais, c'est vraiment un festival qui est super cool, qui a vraiment toutes sortes de screenings, toutes sortes de films, autant les gros films blockbusters que les films d'auteur, que des perles, que des courts-métrages, puis des films expérimentaux, il y a vraiment de tout. Mm-hmm. Je suis comme tombé sur des mauvaises séances cette année, là, ça arrive, là, c'est comme... Plein de films sont comme assez moyens, là, comme genre Saturday Fiction de Li Yu, c'est un cinéaste chinois que j'aime beaucoup, ça c'est un film super brouillon avec Gong Li. Là.
Ok, puis, ben, ça par exemple, c'est un plus quand même.
C'est un plus,
ça sauve pas le truc, visiblement.
Non, puis tu sais, c'est un film d'époque en noir et blanc, puis même le noir et blanc il était comme super fade, genre un peu décevant. Mais le film que je veux mettre sur votre radar, c'est, puis toi, Pascal, particulièrement, je pense que c'est un film qui te parlerait là, beaucoup. Là. Ça s'appelle Sound of Metal. Là. C'est le premier long métrage réalisé par Darius Marder. Marder, qui est aussi un scénariste, il a travaillé beaucoup en fait avec Derek Cianfrance. Et c'est lui qui a co-scénarisé The Place Beyond the Pines.
C'est ça, tu m'en as parlé un peu hors d'onde, tout ça, mais on dirait que là, seulement maintenant que je fais tous les liens, là. Ok, ouais, Sound of Metal. Puis juste là, je vois sur IMDb, il n'y a pas de poster, il y a juste un dude en chess avec un drum, là. Ça a l'air cool.
Et d'ailleurs, il y a plusieurs parallèles à faire avec ce film-là, notamment un personnage principal, tu sais, un peu tatoué, jeune, ex-junkie, tu sais, qui a clairement beaucoup de démons intérieurs.
Tu parles entre Place Beyond the Pine et Sound of Metal, carrément?
Dans les deux, là, tu sais, il y a une espèce de personnage principal assez similaire. Dans Sound of Metal, donc, c'est un drummer qui est interprété par Riz Ahmed dans le rôle de sa vie. Là. Ahmed, qui était comme le personnage secondaire dans Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal. Et ça commence vraiment, ça s'ouvre sur une scène de spectacle. C'est un groupe à deux, dans le fond, c'est lui et sa copine... qui font du métal, un peu de... Puis tu sais, ils vivent dans leur roulotte, puis ils vont faire un peu le tour, puis ils essaient de vendre leur CD dans des petites conventions, puis faire des bars, tout ça. Ça s'ouvre sur une scène de show, là, c'est hallucinant, puis tu sais, techniquement, au TIFF, là, c'est impeccable, la projection, le son, tout ça. Et donc, grosse scène intense, là, c'est comme. On est loin de Whiplash, là, c'est plus trash, c'est plus oppressant là, comme ambiance, tout ça. Et lui, c'est le drummer, et puis évidemment, c'est très dur sur le corps, sur les oreilles, tout ça. Et pas longtemps là, après le début du film, il va soudainement, comme du jour au lendemain, perdre comme 80% de son audition, de son ouïe. Et le film va nous placer un peu dans de son point de vue auditif, dans son point d'écoute, si on veut. Donc, tu vas le voir à un moment donné qu'il se réveille dans sa roulotte puis se met à freaker parce que là, soudainement, tous les sons sont vraiment étouffés. Et le travail de sound design de ce film-là est absolument exceptionnel, là, pour être. On est vraiment comme dans la peau de cette personne-là. Et d'avoir. Puis il est quand même jeune dans le film, là, c'est quelqu'un dans la trentaine, quelque chose comme ça. Et pour un drummer, perdre l'ouïe, c'est comme perdre sa vocation, sa fonction, perdre vraiment tous ses repères. Et là, il va un peu retomber dans ses vieux pièges de junkie, puis de. Parce que là, tu comprends au fur et à mesure, sans que ce soit explicité, que tu sais, il a suivi des thérapies, puis tout ça, puis il y a des espèces de mantras, puis d'exercices à faire pour se calmer, tu sais. Et sa blonde, elle va essayer de l'aider là-dedans, mais tu sais, c'est vraiment comme poignant de voir comme. T'sais, le quotidien le plus banal, là, t'sais, les trucs, il peut même pas comme. T'sais, s'il est de dos, puis sa blonde il parle, il l'entend pas, t'sais, puis lui se met à freaker, t'sais, puis vraiment l'acteur, il est exceptionnel pour nous rendre cette espèce de. C'est un cauchemar complet, là, t'sais. Et là, rapidement, un peu aussi comme Place Beyond the Pines, il y a un peu les mêmes défauts, c'est-à-dire que le film est comme. Il y a vraiment beaucoup d'ellipses, c'est comme sur vraiment plusieurs époques de sa vie. C'est un peu long. Mais dans le fond, tu vas le voir d'abord, c'est ça, le choc de ça. Et éventuellement, c'est qu'il va aller dans une espèce de maison de retraite pour les gens qui ont des problèmes d'ouïe. Et il va un peu comme. Ben, ça, c'est comme une espèce de retraite fermée là, où sa blonde ne peut pas être avec lui, sa famille ne peut pas être comme l'appeler ou quoi que ce soit. Et il va donc apprendre à être sourd. C'est un peu ça le mantra de cette maison-là. Et sur le coup, évidemment, c'est le refus. C'est comme, j'ai pas besoin de ça. Il demande au docteur, tu sais, s'il y a d'autres options. Puis là, il apprend qu'il y a des implants que tu peux faire, mais ça coûte genre 40 000 $, quelque chose comme ça. Fait que là, il songe plutôt à cette solution-là, puis il fait pas la paix avec le fait qu'il a détruit ses tympans à force de faire la musique. Donc, j'en dirai pas plus vers où ça s'en va par la suite, mais c'est ça, c'est vraiment un film qui est extrêmement bien joué. Le travail avec les acteurs est exceptionnel. Sa blonde dans le film, c'est Olivia Cooke, qu'on avait découvert dans Ready Player One. Elle est très très bonne, si un peu méconnaissable au début, là. J'avais comme pas reconnu, ça a pris du temps à replacer. Parce qu'elle aussi, elle est comme les sourcils bleachés, look punk, tout ça. Et non, c'est vraiment bien fait au niveau du sound design. La mise en scène est comme assez sobre au service des acteurs, au service du récit. Et c'est un film vraiment touchant et fait à remarquer, assez intéressant comme séance. C'était la première mondiale. Et c'était une copie qui était sous-titrée intégralement. Mais pas juste les dialogues, mais également ce qu'on appelle du closed captioning, c'est-à-dire du sous-titrage pour malentendants, avec également, mettons, les dialogues et, par exemple, les bruits, là, ils vont être écrits là, dans les sous-titres, là, mettons, vent dans les arbres ou des trucs comme ça.
Ok,
Et
carrément, hein.
puis la séance d'ailleurs, tu sais, le réalisateur était là pour introduire le film, puis il a dit, c'est vraiment important pour moi, tu sais, la question du sous-titrage, puis du sous-titrage pour malentendants, et je veux vraiment que tout le monde ici vive, c'est sûr que ça sera pas la même expérience, mais soit capable un peu de comprendre, peu importe votre niveau d'audition. Et il y avait également comme une traductrice qui traduisait son discours en langage des signes. Puis c'est vraiment cohérent avec la démarche de ce film-là. T'sais, pas que ce soit un film à message nécessairement ou moralisateur ou quoi que ce soit, mais juste de comme démystifier peut-être cet handicap, cette déficience qui on prend trop souvent pour acquis. T'sais, moi, je suis en santé, donc on oublie des fois que ces gens-là aussi font partie de la société, puis ils n'ont pas à être relégués aux oubliettes pour autant, là. Donc, vraiment une séance qui nous a marqué. Et Amazon a racheté les droits pour ce film-là parce qu'il n'y a pas de distributeur encore, mais il y a eu un deal au TIFF. Et ils ont annoncé qu'elle allait le sortir en décembre. Et ils vont vraiment pousser la candidature de Riz Ahmed pour avoir une nomination comme meilleur acteur. Et je lui souhaite, c'est vrai, ça serait très mérité.
Ah, non, mais c'est bon, écoute, tu me l'as vraiment vendu, that's it. Fait que c'était pas sur mon radar, puis là, ça l'est définitivement. Hey, moi, sous les yeux, là, j'ai un peu un genre de round-up là, de critique des films qui se seraient là, démarqués hâtifs, là, selon les professionnels de l'industrie, tu sais.
Ouais.
Puis, je vais te les passer un peu en rafale. Ben là, évidemment, il y a eu le Grand Prix pour Jojo Rabbit.
Que
Déjà
quand
que,
même,
ouais.
en fait, c'est le prix du public, c'est ça qu'il faut savoir.
Ouais, ben c'est
Parce
ça,
que
exactement.
le TIFF, contrairement à d'autres festivals, c'est pas un jury qui détermine ça, c'est vraiment le prix du public. Et le prix du public de TIFF, à chaque année, est vraiment un gros indicateur de la course aux Oscars. Le festival, d'ailleurs, en est très fier. Et l'année passée, c'était Green Book qui avait gagné le prix du
Ouais,
public
c'est
TIFF.
ça, c'est ça, c'est ça.
Mais
Ben.
j'avoue que Jojo Rabbit, on dirait que j'y crois pas, là, ça a l'air assez particulier comme film, puis vraiment, les gens sont
Ben.
divisés, là, il y en a qui...
Tu y crois pas par rapport dans un contexte d'Oscar ou tu y
Ouais.
crois pas personnellement, genre au niveau de ton appréciation possible du film par
Ben,
rapport à sa proposition?
je l'ai pas vu, donc je me laisse le
Ouais,
droit de...
non,
Tu
non.
sais, j'aime beaucoup Taika Waititi, mais ce que j'entends sur le film, je crois pas que ça va se ramasser aux Oscars, là. Il y en a qui sont comme... Il y a eu beaucoup de comparaisons, genre La vie est belle, mais tu sais, une espèce de La vie est belle irrévérencieux. Puis là, je suis comme, ouf, j'ai l'impression que c'est le genre de film un peu punk qui va pas du tout plaire à une grande partie de la
Non.
population, là.
Par contre, au niveau des films plus unanimes, ah ben, tant qu'à faire un autre film qui certains crient au génie, puis certains savent pas comment le prendre, ben, il y a quand même Joker de Todd
Ouais.
Phillips là, qui fait définitivement couler beaucoup
Après le
d'encre.
Lion d'or, là, ouais.
Ouais, ben c'est ça, après le Lion d'Or déjà, hein. Fait que, tu sais, je veux dire, lui, il est parti pour la gloire. Puis je pense que, tu sais, si je tente le pouls de mes amis, autant cinéphiles que curieux du cinéma sans plus, c'est vraiment un film qui, de par peut-être, oui, la bande-annonce, ben, tu sais, déjà, c'est un super vilain, on est tout attiré vers ça d'une certaine façon. C'est peut-être, enfin, un film qui va enterrer le film de super-héros d'une certaine façon. Tu sais, c'est peut-être un épitaphe possible à tout cela, là. En tout cas, moi, je le souhaite, puis
Ben, moi,
ça
juste
a
un
l'air d'un
truc
bel
qui
épitaphe.
m'intéresse, juste un truc qui m'intéresse, c'est que ça a l'air d'être un film de super-héros autour des acteurs et sans effets spéciaux à outrance, t'sais.
Non, absolument. Puis,
Donc,
tu
ça
sais,
fait du bien, là.
ben, c'est sûr. Puis, même, il y a vraiment une vibe, tu sais, Travis Bickle, Taxi Driver. Je pense, juste dans la bande-annonce, il y a quelque chose comme une aura que ce film semble avoir qui est virtuellement absente de tous les autres. Ben, peut-être. Bon, je dis film de super-héros, hein. C'est vraiment un terme. Un terme fourre-tout, là, d'une certaine façon. Bon, oui, on pourrait techniquement dire super vilain, blabla, tout ça, mais on est quand même dans l'univers DC, on est dans l'univers. On peut pas se méprendre, je veux dire, le titre du film, c'est fucking Joker, donc voici, voilà. Fait que ça, c'est évidemment un qui s'est démarqué, mais il y en a d'autres qui arrivaient un peu de nulle part. Mettons. Puis j'ai des films avec des bandes-annonces assez curieuses, dont le Knives Out. T'as-tu vu un petit peu?
Ben oui.
Ouais, c'est ça.
Ben oui,
T'as vu
je voulais des billets pour ça, puis c'était complètement sold out, là. Il n'y
ça?
avait aucun moyen d'avoir des trucs. Ouais, Ryan Johnson, qui après le gros succès de Star Wars,
C'est
The Last
ça.
Jedi, se paye un gros trip, film à la Clue, tu sais, un film un peu comme sur le modèle
Des
des
whodunits, là, qui
whodunits,
appellent,
puis
ouais,
genre
c'est ça, exactement. Ouais.
les mystères à la Agatha Christie, Hercule Poirot, tout ça, avec un casting hallucinant. Donc ouais, ça a l'air très très le fun, honnêtement.
Ouais, on en dit beaucoup de bien. Niveau buzz de performance, ben, t'sais, il y a Tom Hanks là, qui joue Fred Rogers dans le film sur ben, A Beautiful Day in the Neighborhood, là, dont il y avait un documentaire, là, pas plus tard que quoi, l'an dernier?
Ouais,
C'est-tu
Want to
l'an
be my
dernier, le
neighbor,
film?
ouais.
Want to be my neighbor, oui, évidemment, dont on parle. Fait qu'évidemment, un film de fiction sur le même personnage. Il y a The Two Popes de Fernando Meirelles, apparemment, que c'est bien aussi. C'est surtout aussi là, ce qui est confondant et hallucinant, là, juste à partir de la bande-annonce, c'est, je veux dire, les deux papes en question, là, t'sais, ils s'y ressemblent tellement, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est joué par Anthony Hopkins, puis je pense Jonathan Pryce. C'est ça, Jonathan Pryce?
Je sais pas pour le deuxième, là. Tu me
Qui
prends
joue, ben,
dépourvu,
t'sais,
mais
qui joue le
ouais.
pape François, là. Bon, fait que ça aussi, on en dit beaucoup de bien. Puis, évidemment, je pense que c'est les deux films qui semblent être t'sais, les critiques dithyrambiques across the board. T'sais, encore une fois, hein, Parasite de Bong Joon-ho, puis Marriage Story de Noah Baumbach. Ça semble être vraiment les. S'il y en avait deux là, qui semblaient s'être profilés là, en tête, là, disons, de l'appréciation parmi les critiques, ne serait-ce, là, ce serait possiblement ces deux-là. Je sais
Oui,
pas si
tout à
toi,
fait.
je sais pas s'il y en a que j'ai oublié ou.
Ben, c'est pas mal celui-là. Ensuite, il y a Lighthouse, évidemment.
Oui,
Moi, j'ai un
Uncut
collègue
Gems.
qui l'a vu. Ouais, Uncut Gem également.
Uncut
Il
Gems
fait
aussi,
vraiment
ouais,
beaucoup
que
de
j'ai.
buzz, là.
Ouais.
Mais Lighthouse, toi, moi, j'ai un collègue qui l'a vu, qui a vu 5 films aussi à TIFF ce week-end-là. Et pour lui, c'était le moins bon des 5 films qu'il a vu. Il a vu A Marriage Story, il en a vu d'autres, là. Parce que selon lui, c'est comme une coquille vide, là. C'est comme, t'es super
Ok.
beau, mais genre, tu tannes vite, là, t'sais.
Ok, eh bien. Ben c'est ça. Fait qu'écoute, à défaut d'avoir vu toi, d'en avoir vu tant que ça, puis ben moi d'y avoir été carrément, ce sera notre tour d'horizon de type, j'imagine. Mais tu sais, c'est tout le temps ça. Je veux dire, ça fait juste saliver là, pour la saison de l'automne. Puis
Ben,
c'est
par
ça. Il y a
contre,
plein de ces films-là qu'on va en parler ad nauseam de plusieurs de ces films-là jusqu'aux Oscars aussi, de toute façon. Donc ils vont sortir au compte-gouttes, là. Qu'est-ce que t'as d'autre?
on va en parler plus tard, mais il y a plusieurs des films québécois slash canadiens que j'ai pu attraper à
Hey,
Québec.
ah, c'est ça, exactement. Ben, déjà aussi, hein, les films québécois hâtifs, ils ont vraiment eu une très bonne réception en général, hein.
Tout à fait.
Il y avait ben, Antigone, qui là maintenant on sait que c'est le film qui représente. C'est surprenant hein, que ce soit pas Mathias et Maxime, mais en même temps, Dolan n'a tellement pas la cote, on dirait, peut-être surtout en ce moment aux États-Unis, que c'est ben, c'est sûr que voilà. Hein, je pense que sa non-sélection un petit peu parle d'elle-même, là.
Mais je me demande aussi s'il n'y a pas une question de date de sortie pour
Ah oui,
Mathias et
c'est ça.
Maxime.
C'est ça. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il n'était pas éligible pour cette année. Ouais. En tout cas, peut-être qu'il y a un auditeur pour nous corriger, là, mais ouais. Je pense que c'est ça, t'as raison. Mais quand même, il y a le 20th Century de Matthew Rankin, dont qu'on va recevoir au FNC à Montréal, qui tu sais, juste la bande-annonce, puis le travail de Matthew Rankin en court-métrage, déjà, j'étais super hype, puis ça semble ne pas décevoir. Il a quand même gagné le prix du meilleur premier long-métrage canadien à TIFF. Ça, c'est un jury là, qui remet ces prix-là là, dans le contexte des films canadiens. Puis, il y a aussi ben, Quispan, puis celui-là, je sais pas si tu as eu la chance de le voir à Québec, mais qui est reparti avec les grands honneurs à Québec. Puis, c'est ça. C'est trois films, je pense, juste de ces trois-là qui ont eu des critiques super, une très, très belle réception. Je suis curieux de t'entendre sur Quispan, mon ami.
D'accord, ben je m'en allais pas là, mais effectivement, donc à Québec, ben, peut-être parler un peu du festival aussi,
Ah,
festival la Ville de Québec, tu sais, ce qui, on en parlait un peu déjà dans le dernier podcast, mais je trouve que j'ai eu des très belles surprises à la programmation, honnêtement, là, il y a vraiment
ouais.
des perles, il y a vraiment des belles expériences. Le festival est vraiment bon pour trouver des bons lieux puis des bons concepts pour accompagner les films. Par exemple, hier, tu sais, je passais pas trop de temps là-dessus, mais on a vu des films dans une cathédrale, la cathédrale Holy Trinity. C'était comme des vieux films touristiques slash publicitaires du début du 20e siècle, tournés à Québec ou au Québec. Il y en a un qui c'était comme ça s'appelait la Gaspésie pittoresque. Et des espèces de films d'archives retrouvés par des chercheurs de l'Université Laval. Présenté avec un pianiste pour les. Il y en avait comme 3 sur 5 qui étaient muets et 2 qui étaient sonores. Et évidemment, l'acoustique de la cathédrale, c'était nickel, c'était parfait. Et puis même, tu sais, c'est des films que j'aurais jamais écoutés en dehors de ce contexte-là. Donc, les films en soi ont très peu de valeur, sinon anthropologique, parce que tu écoutes des fois des films de 90 ans, puis c'est amusant de voir un peu ce qui a changé, ce qui reste un peu pareil. Donc, c'est vraiment une très belle séance, tu sais, qui donne envie. Puis, tu sais, même, il y avait des publics un peu de partout. Je pense que c'est pas juste un truc pour cinéphiles érudits, là. Tu sais, c'est juste d'apprécier vraiment la vie d'une autre époque. Puis, à Québec aussi, on sent tellement. Il y a tellement un côté fierté, là. Puis, peut-être un petit peu trop, je crois, avec le festival, là, des fois, là, dès que c'est tourné à Québec ou c'est un cinéaste de la ville de Québec, là, soudainement, on dirait que. On en vient à comme perdre nos repères critiques puis à dire que c'est comme merveilleux le plus grand film. Mais bon, reste que ça, cette séance-là, c'était super cool. Il y a le passage à l'Olympia qui est comme un tout petit, genre ancien parking. Avant ça, c'était un petit cinéma qui est sur la rue Saint-Jean. Et là, ils ont converti ça en espèce de. C'est sûr, ils ont mis des chaises, un écran portatif, tout ça. Puis. Il y avait, mettons, le programme de DJ XL5 de Fantasia qui jouait. Tu sais, c'est vraiment comme des trucs le fun. Sur la place d'Iouville, il y a eu vraiment tellement de monde cette année, là. Tu sais, c'est super beau le carré d'Iouville pour ceux qui ont jamais été dans ce coin-là au festival. Les projections extérieures, tu sais, j'ai attrapé un bout de ESS 117. Il y avait comme, tu sais, plus de 1000 personnes, plusieurs personnes assises dans les marches qui montent au Mont-Calme. Et t'sais, les gens rient, c'est de bonne foi. T'sais, c'est des films vraiment très grand public qui vont jouer Titanic, à un moment donné, Rocky IV, t'sais. Puis ils vont également mettre des courts-métrages québécois, puis de la relève, avant, mettons, ces projections-là de films super connus. Fait que, t'sais, mettons que tu vas aller voir Rocky IV, ben, puis là, c'était plein pour ça, mais avant ça, les gens ont pu découvrir Le Prince de Valbée de
Ben,
Jean-François Leblanc. Fait que c'est super cool, là, t'sais.
c'est vraiment drôle. J'y ai parlé spécialement à lui, personnellement, à une des soirées du festival, tu sais. Puis il dit, c'est ça, ouais, mon film, je vais avoir 4. Je me rappelais l'avoir vu, mais j'avais un peu oublié, comme avant qu'il me le rappelle, tu sais. Puis il a enchaîné un peu en disant, il dit, t'aurais dit ça à Jean-François Leblanc de 8 ans, là, que mon film, mes courts-métrages à jouer avant Rocky 4, t'as dit, j'aurais
Ouais, non,
capoté. Tu
c'est
sais,
ça.
genre, il était vraiment. Il était comme conscient de quelque chose qui était un peu drôle, naïf, mais en même temps, c'est tellement awesome. Donc, en tout cas, il trouvait ça bien drôle.
Non, c'est cool. Puis donc, le festival au niveau de l'accueil, surtout la communauté québécoise, de la section québécoise, c'est vraiment, vraiment nickel, là, comme ils n'ont rien à envier à personne. La seule chose que je dirais, c'est que il y a comme des affaires que j'ai compris en arrivant sur place. Il y a peut-être un petit manque au niveau de la com ou quelque chose comme ça. Mais par exemple, tu sais, toi, tu as vu, mettons, le film Girl Walks Alone at Night d'Anneli Armipour. Et ce film-là, en fait, était projeté dans comme. C'est le cadre d'une sélection autour du thème de la sorcière au cinéma. Et ça, fallait comme le savoir un peu, tu sais. Puis il y avait comme une programmatrice invitée qui a un peu expliqué justement, tu sais, à chaque séance qu'elle est. Parce qu'il y a comme 13 films, je pense, ou 12 films autour de cette thématique-là. Et ça, j'avoue que moi, j'en ai vu un ou deux, je pense, de ce programme-là. Et d'avoir l'explication que ça tourne autour de ça, tu sais, ça fait comme plus de sens que simplement, bon, tu vas voir ce film-là iranien, tu sais. Aussi bon soit-il, tu sais, des fois, c'est juste comme, c'est le fun un peu de comprendre dans quel contexte ils sont projetés. Il y avait également une espèce de programme arc-en-ciel pour les films LGBT. Et ça faisait comme plus de sens, en tout cas, de voir comme, OK, je comprends qu'il y a ces films-là ensemble, font partie d'une thématique. Fait que les thématiques existent, c'est juste qu'elles sont peut-être un peu mal expliquées ou communiquées ou donc c'est ça.
Par contre, justement, moi je l'ai vu, A Girl Walks Home Alone at Night.
Ouais.
Puis il y avait une mise en contexte, justement, le physique. Je ne sais pas si toi, si dans ce film-là, voyons, dans un de ces films de cette section-là, mais il y avait j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, mais la programmatrice en question qui est venue faire une très très belle mise en contexte. Elle avait même remis un texte qu'elle avait rédigé là, pour un peu justifier les choix de tel et tel film, puis comment que la programmation s'inscrit dans un phénomène plus global. Là. Dans ce cas-ci, là, t'sais, la figure de la sorcière comme façon de comme oppression patriarcale sur t'sais, la femme à travers les âges, puis comment que t'sais, finalement c'est un peu une genre d'étiquette qui a perduré pour un peu contrôler là, les désirs et l'émancipation féminine à travers les âges. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus éloquent que comment je le dis là, le texte en question, mais. Bref, c'est ça, une fois qu'on y est, c'est très bien expliqué, c'est très bien accompagné, mais peut-être effectivement c'est une question de sur le site web ou parce que c'est vrai que quand tu fais juste browser dans les longs métrages, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de entre guillemets vieux films. Puis si tu sais pas exactement pourquoi ces entre guillemets vieux films là sont programmés puis dans quel contexte, ça noie peut-être la programmation, la QV actuelle puis c'est peut-être de cette façon-là là, il faudrait déjà visuellement qu'il y a un cue qui nous guide. Bon, bref.
Tu sais, puis un autre exemple, c'est Titanic, mettons, qui est projeté sur la place d'Youville. Et c'est entre
OK,
autres
ouais.
parce que Titanic, parce que Céline Dion, donc, est en ville, tu sais, elle donnait des shows au Centre Vidéotron, tout ça. Donc, c'est une espèce de beau clin d'œil. Puis eux, je sais qu'ils disaient, on essaie de l'attirer, là. Donc, si vous êtes beaucoup à venir, elle va peut-être venir dire un mot, tout ça. Bon, je ne suis pas resté, je ne sais pas si elle est passée, je pense pas, là. Mais c'est vraiment ça, c'est de créer les événements et c'est super cool comme ce qu'ils font sur le terrain, mais c'est vrai qu'il y a peut-être juste, ça se rend pas jusqu'au, mettons, cinéphiles de Montréal qui regardent sur leur site web, qui essaient de comprendre. Il n'y a pas non plus de catalogue, là, c'est comme une espèce de journal imprimé que honnêtement, j'ai pas trouvé pratique la formule. Je sais que ça coûte plus cher faire comme une impression de catalogue,
Ouais, c'est ça.
mais j'aurais volontiers t'sais, payé pour avoir quelque chose de plus convivial un peu, puis d'avoir les synopsis, puis les équipes techniques des films. Là, c'est un, t'sais, le journal, finalement, il était comme. Il y avait des infos le fun dedans, mais j'avoue que je l'ai rapidement laissé chez ma sœur où je résidais, puis je l'ai pas, il m'a pas accompagné pendant le festival. Sinon, un autre gros truc, il y avait le documentaire Bob Bissonnette. Puis ça, c'est vraiment fou. Je sais pas si t'as vu des images de ça, là. Mais il était présenté en simultané dans un stade et à la place d'Youville. Puis c'est environ 8000 personnes qui ont vu ce documentaire-là, tu sais. Puis bon, Bob Bissonnette, c'est un héros local aussi. C'est un ancien joueur de hockey, chansonnier, qui, je pense, était aussi coactionnaire d'une équipe quelconque de Québec, tout ça, de sport. Et je parlais justement avec Ian Geller, le directeur général du festival, puis il m'expliquait que ce qu'ils ont fait pour ce film-là, c'est qu'ils ont réussi à avoir l'appui des fameuses radios, entre guillemets, poubelles, là, à Québec, là, des radios de droite. Donc, ils ont vraiment appelé une après l'autre, tu sais, puis plein de gens, ils faisaient juste pas retourner les appels, puis lui, il voulait vraiment comme collaborer avec une radio, parce que la radio à Québec, c'est très, très populaire et influent. Puis il a finalement réussi à avoir, je me rappelle plus exactement quelle radio qui a passé le message, qui a embarqué, qui a invité les gens beaucoup là, t'sais, à venir voir ce film-là gratuitement. T'sais. Et ça a été un succès monstre. Puis ça, justement, c'est avec des exemples comme ça, puis des photos qui circulent sur le web, que ça donne envie aux autres distributeurs, à ceux qui connaissent pas du tout le Festival de Québec, de se dire, OK, là, ça se passe. Il y a des trucs, c'est un gros festival. Puis, même chose pour la soirée, la première de Quispan, qui n'était pas la première mondiale, parce que le film est jouatif, comme on le disait tantôt.
Ouais, mais c'est ça, c'est un film qui met en scène la plupart des Inuits de cette île, Ouachat, tout ça. Donc, ouais. C'est sûr que.
Et Myriam Véro, cinéaste originaire de Québec également.
En plus, là, donc c'est... ce que je veux dire par là, c'est que de cette île à Québec, c'est une route qui se fait, entre guillemets, là, mais de cette île à Toronto, là, c'est une autre paire de manches. Là, fait que je sais que pour elle, c'était important là, que ce soit Québec, parce que c'est quand même un point de rencontre. Puis évidemment, entre les origines même de la cinéaste, là, de Myriam Véro. Donc, pour toutes ces raisons-là, là, c'était hyper. Puis aussi, peut-être le film en tant que tel, mais comme encore une fois, j'ai hâte de t'entendre, mais tu sais, on dit que c'est un film généreux, touchant, qui nous embarque, tu sais, c'est... Puis la bande-annonce aussi, dès la bande-annonce, ça avait comme la vocation... Ça a l'air d'avoir une vocation populaire, puis je dis ça positivement, tu sais, je pense que c'est un film qui pourrait vraiment rejoindre un large public, puis quand c'est de la qualité, ben on est donc content. Hein?
Non, je pense que le public va être au rendez-vous, c'est un film qui est très accessible, toutes les notes marchent bien pour... que ce soit nous émouvoir, faire le pont entre deux cultures. Et c'est ça. Puis même dès le tapis rouge, il y avait justement cette idée de l'ouverture, puis de la communion, puis de travailler ensemble. Puis, tu sais, c'est comme ça a duré une heure. Là, tu sais, il y a long tapis rouge qui longeait l'écran, puis ensuite qui montait au Palais Montcalm avec des musiciens donc autochtones qui faisaient une espèce de gros tam-tam ou je sais pas quoi. Il y a un nom particulier, là, j'ai oublié, là, mais c'est un type
Le Makoucham.
Ouais, ça va être ça, je pense.
Un Makoucham, je pense. Ouais.
Et tout le monde était beau, c'était vraiment émouvant, c'était le fun. Lorsqu'on rentre dans la salle ensuite du Palais Montcalm, évidemment, qui est super belle, après quelques discours obligés de partenaires, tout ça un peu banal, là, dans le fond, il y a un chef d'une tribu Innu qui est arrivé sur la scène. Puis là, au début, il parle un peu en français. Puis ensuite, il dit Kwe. Kwe qui veut dire comme bonjour dans cette langue-là. Et là, soudainement, la salle s'est allumée, puis le monde gueulait, puis il était super content. Tu sais, comme vraiment une espèce de choc électrique là, dès qu'il a dit ça. Puis il a commencé justement à parler dans sa langue. Puis ensuite, il dit « Bon, je vais traduire, je vais se mettre à traduire un peu en français, mais je serai pas capable, c'est ben trop profond ce que je viens de dire. » Puis tu sais, des petites blagues comme ça, puis les gens étaient vraiment dedans. Là. C'était comme un peu le gros party. Puis tu sais, la moitié de la salle, c'était des gens autochtones. Donc c'était super le fun comme salle, puis c'est Myriam Véro, la réalisatrice, justement, elle soulignait ça, tu sais, que ce film-là, tu sais, souvent, mettons, il y a des films que, tu sais, mettons, les gens des Premières Nations vont écouter des films québécois, des Québécois vont écouter des films des gens des Premières Nations, là, c'était comme un film mixte devant un public mixte, et c'était vraiment ça un peu le souhait de ce projet-là, entre autres choses, parce que c'est adapté d'un roman éponyme de Naomi Fontaine, que je n'ai pas lu malheureusement, qu'on dit qu'il est très épars et qui tu sais, c'est un peu comme des petits bouts de récits, de poèmes.
C'est ça, c'est ça. Puis, c'est pas une adaptation qui se fait de soi, là. C'est pas comme tu lis ce livre-là, puis il y a déjà comme un peu un film, puis une structure qui est comme un peu évidente, là. C'est beaucoup plus fugace, beaucoup plus insaisissable que. Ben, pas insaisissable, c'est pas ça le bon mot, mais en tout cas, bref. C'est pas adaptable, là, du livre à l'écran. sans se creuser le coco, là. Non, ça c'est clair.
Et Quispan, qu'est-ce que ça raconte en fait, le film, là, je parle, là, pas le livre. Ça tourne vraiment autour de deux sœurs finalement, c'est ça le nœud du film, qui ont chacun un peu des trajectoires qui vont diverger de plus en plus. C'est un beau portrait de communauté. Et notamment la personnage principale, puis d'ailleurs les deux personnages principaux, les deux jeunes femmes, ce ne sont pas des actrices professionnelles, c'est leur premier film. Puis vraiment un travail remarquable en termes de direction d'acteur pour tout le casting. T'sais. C'était quand même très très bien tout ça. Même si, bon, il y a des petits bémols, puis c'est sûr que c'est vraiment pas sans faute. Il y a comme quelques acteurs qui sont un peu plus off, mais c'est le risque, c'est le prix à payer en fait pour avoir une espèce d'ensemble criant de vérité puis d'authenticité.
Ouais, ben c'est ça.
Donc, c'est ça, Miquan et Shanice, les deux sœurs. Miquan, elle, qui est plus ouverte ou du moins intéressée par la culture francophone. Elle écrit, elle veut devenir peut-être poète ou romancière plus tard. On comprend que c'est un peu peut-être l'alter ego de d'Amélie Fontaine ou de quelconque artiste qui peut s'identifier là-dedans.
Ben, il y a beaucoup, chez les Innus, il y a énormément d'artistes aussi, là. C'est vraiment une des communautés, tu sais, je sais que leur culture musicale, notamment, tu sais, t'as l'impression que une personne sur deux est musicien, puis tout ça, c'est ça. Ils ont vraiment l'intérêt, puis ce sont des artistes, là. C'est vraiment une communauté d'artistes en général, là. Mettons que je fais une généralisation, là. Donc, c'est très plausible, tu sais, c'est pas juste comme, c'est pas juste parce que c'est un terrain de prédilection pour un cinéaste, c'est un artiste. Donc, tu sais, souvent, on en a soupé, là, des films qui sur des gens qui ont des aspirations artistiques, là, tu sais, parce que c'est ça. Mais dans un cas comme ça, c'est excessivement, je crois, organique à la nature même des Innus, là. Donc, c'est bien correct. C'est cool.
Et Miquan, donc, elle va s'intéresser plus à la culture francophone. Elle va faire partie d'une espèce de troupe de création littéraire et elle va rencontrer un jeune Francis, joué par Étienne Gallois, un jeune Québécois francophone, donc, blanc d'origine, les deux vont s'enticher, vont avoir une belle petite relation. Et bon, évidemment, c'est compliqué parce qu'ils viennent de deux mondes différents. Sa sœur aime pas trop le fait qu'elle sorte avec un blanc, puis ça joue beaucoup là-dessus. C'est un peu là mon bémol avec le film. C'est une proposition qui est évidemment pleine de bonnes intentions, qui est vraiment bien faite, bien réalisée, bien produite. C'est bien joué par l'ensemble de la distribution. La direction photo, c'est signé Nicolas Cagnicioni, qui avait fait Genèse, qui est selon moi l'un des meilleurs DOP au Québec. Là. Puis alors, il le prouve encore une fois, c'est incroyable. Il y a des idées de mise en scène, de plans de caméra, puis d'utilisation de focales, tout ça, qui sont hallucinants. Puis bon, ça c'est lui avec Myriam, j'imagine, là, c'est un peu les deux dans le travail. Là. Mm-hmm. Et tu sais, puis je peux pas vraiment vous donner trop d'exemples sans trop rentrer dans le précis puis peut-être gâcher des punchs, donc je rentrerai pas là-dedans, mais il y a vraiment des images fortes là, qu'on se rappelle. Une utilisation du bleu et du rouge aussi, qui est quand même assez subtile, mais évidemment très forte en symbolique, entre le bleu qui représente la France, puis le Québécois, le rouge qui représente évidemment les Autochtones, ça. Mais les deux ensemble, ça fait quoi? Ça fait un gyrophare de police qui est jamais bien loin. Il y a comme vraiment comme ça, des bonnes idées au niveau des couleurs et des lumières dans ce film-là. Donc c'est vraiment stimulant en termes de cinéma. Là. C'est vraiment une œuvre à voir au grand écran. Mais je te dirais que le récit et le scénario ne peuvent pas vraiment s'éviter certains écueils et puis des trucs qu'on a déjà un peu vus déjà. C'est le genre de film, des films comme ça qu'on essaie de rallier des communautés, ça revient souvent beaucoup au même. Puis celui-là ne fait pas nécessairement exception, même si il y a comme des petites interludes, quasiment des petites scénettes, pratiquement genre documentaires, entre les segments où le récit avance. Vraiment des petits moments, des fois que c'est un seul plan, quelqu'un à l'aéroport et qui se met à dire des blagues avec le douanier ou plein de trucs comme ça. Et ça, ces moments-là font vraiment du bien. T'as l'impression que ça a été capté sur le vif, que c'est vraiment que c'est parce que Myriam Véro et son équipe sont vraiment investis dans la communauté, ont bâti un lien de confiance. Donc il y a vraiment ce côté-là extrêmement touchant et vrai, tu sais. Donc ça élève le film, mais le récit principal, on sait un peu où ça se dirige, on comprend. Évidemment, il y a la violence dans les réserves, il y a la question de la pureté de la race versus est-ce qu'on se mélange, tout ça. Il y a la question de les centres sociaux, les enfants non désirés, tout ça. Bon. Donc, c'est juste un bémol dans le sens que, par exemple, un film comme Avant les rues, je trouvais que le scénario était comme plus original. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de comme un truc que j'avais pas
Il y avait même
vraiment
quelque chose
vu,
d'un
là.
peu mystique aussi, là. Tu sais, c'était quasiment plus près d'un film d'Apichatpong, Vrasita Cool, des fois, que du film un peu social à thèse aussi, puis le, ou du film de pont, tu sais, qui fait justement un pont entre les cultures, puis d'empathie. Mais tu sais, Dieu sait qu'on en a quand même de besoin, tu sais, je veux dire, même si
Tout à
je
fait,
t'entends,
tout à
puis
fait.
j'entends tes bémols, mais on n'a pas de très bons exemples cinématographiques, tu sais, qui. Puis je pense que là aussi, l'air du temps est fait qu'on est beaucoup plus prêt collectivement à le recevoir, ce film-là, qu'on aurait pu l'être il y a 15 ans, 10 ans. Même donc mais je vois un peu à travers ta critique là, en filigrane là, tu sais, je pense que je en tout cas, je décèle un peu qu'est-ce que tu veux dire plus là, mais en même temps c'est peut-être important, tu sais, que ce soit fait, puis que ce soit fait d'une façon qui est peut-être pas qui n'aliénera pas un grand public,
Non, c'est ça.
précisément parce qu'on veut créer un pont
Tout à fait.
Largement le large là, tu sais, avec ce grand public-là, avec l'approbation, puis que ce soit entendu par, entre guillemets, le grand public, et non peut-être des artistes un peu plus enclins à être empathiques, à la sensibiliser ne serait-ce à la réalité autochtone, puis tu sais,
Mais
c'est
c'est-à-dire que, tu sais, c'est un bon film, là. Puis honnêtement, je pense qu'il va avoir du succès. La seule chose, c'est que tu vois, j'aurais aimé que le film m'émeut, parce que clairement, c'est aussi ça, la trajectoire du film, là, le souhait. Et finalement, c'est plutôt ce qui entoure le film qui m'a ému. C'est la soirée, l'ouverture, c'est le tapis rouge, c'est les discours. C'est juste le projet, en fait, de faire ça. Puis il y a aussi, bon. Qui dit personnage qui souhaite être écrivain, dit des fois voix off, poétique, qui vient un peu apporter un commentaire à ce qu'on voit, tout ça. Ça me gosse souvent, puis c'est présent dans un autre des gros films du FCVQ, une voix off comme ça, puis j'avoue que là, c'est parce que, tu sais, des fois, les mots, c'est le fun sur la page, mais pas nécessairement en voix off, puis je trouvais que les images et ce qu'on voyait, c'était déjà assez poétique et assez porteur de sens, sans qu'on ait besoin d'avoir un peu les réflexions aussi imagées soient-elles là, du personnage principal. Donc, ça aussi, ça m'a un peu t'sais, ça m'a un peu agacé là, parce que finalement j'aurais vraiment souhaité être plus ému que ça par le film.
Bon.
Mais sinon qu'est-ce qu'on a vu d'autre également? Un gros coup de cœur moi du festival sans contredit, c'est Carnaval. Premier
Ouais,
film
c'est ça.
d'Alexandre Lavigne. C'est un ovni, puis j'ai peur qu'il n'aura pas vraiment de carrière, là, parce que pour l'instant, il n'y a aucun distributeur ni nouvelle projection annoncée. Il avait joué au RVQC au début de l'année. Alexandre Lavigne, qui est acteur, on l'avait vu dans Prank, et d'ailleurs, c'est en étant sur ce plateau-là, qui était un film vraiment indépendant, fait par Vincent Biron, il s'était juré de faire un film avant 30 ans, un long métrage. Finalement, il a fait Prank à 33, il a dit là, c'est assez. Et Alexandre Lavigne a dit, OK, moi aussi, je vais le faire. Donc, Carnaval, film un peu un micro-budget, un peu comme tes faux tatouages, Pascal, qui a bénéficié d'un nouveau programme qui s'appelle Émergent, je sais pas quoi. Et qu'est-ce que c'est? C'est très simple, en fait. C'est un film de comme 1 h 10, là, tout fragile, qui se passe en 95. Et la jeune actrice, le jeune personnage principal, dans le fond, perd ses... Est-ce que c'est Julie, son nom? J'oublie le nom du personnage, mais on va dire que c'est Julie, là, pour les besoins de la cause. Perd ses deux parents dans un accident de voiture. La scène d'ouverture, c'est donc les funérailles à l'église. Et on va la suivre pendant 1 an, alors qu'elle compose avec la mort de ses parents. Et elle a environ comme 17 ans. C'est l'été. C'est pas l'été tout le long du film, parce qu'il y a plusieurs ellipses. Mais une bonne partie du film. Et notamment, il y a un nouveau voisin qui débarque en face de chez elle avec qui elle va se lier d'amitié. Donc, c'est tout simple, mais la forme est assez particulière parce que le film a été tourné donc en HD, selon des moyens standards, et ensuite transféré 2 fois sur cassette VHS. Ce
Ah,
qui
voilà.
lui confère un look évidemment très authentique et très Lo-fi, on se rappelle tous un peu, ben, ceux de notre génération, peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent n'auront pas connu cette époque, mais les fameuses vidéos de famille et films VHS joués et rejoués qui finissent un peu par se briser. Et ce qui est vraiment intéressant en fait de ça, c'est que c'est pas juste un affect nostalgique, mais qui va s'en. Alexandre Navigne va utiliser ça pour justement. Ça va lui donner des outils de montage et effectivement affectifs pour comme appuyer les récits puis venir le chambouler. Exemple, il y a toujours la date d'enregistrement en bas à gauche. C'est la supposée date d'enregistrement diégétique en bas à gauche. Comme justement quand on faisait des vidéos de famille à l'époque, puis on laissait la date par défaut. Et sur le coup, au début, bon, tu la remarques, mais elle s'efface rapidement parce que tu es tout le temps là. Mais tu te rends compte que c'est un repère instantané parce que lui, il fait des flashbacks, des fast-forward, il va faire des ellipses. Donc là, tu peux comprendre, ah, ok, oui, il y a 3 mois qui viennent de se passer, fait que c'est normal que là, ce personnage-là est rendu là. Et l'évolution fait sens aussi. Les acteurs sont extrêmement bien dirigés. Et les scènes sont très, très longues, en fait. C'est vraiment ce film court avec peu de scènes. Mais toutes les scènes prennent l'espace requis. L'espace temporel et clairement, c'est quasiment le travail de t'sais, une espèce de troupe de théâtre là, t'sais, qui est en train de développer quelque chose, là, puis là on essaye des trucs. Là. Il y a un côté comme ça très communautaire, très théâtral. Et Alexandre Navigne, qui est lui-même acteur, je pense qu'il est capable justement d'aller chercher un peu ce qu'il veut puis de travailler avec beaucoup de générosité avec ses acteurs. Et la scène, moi, qui m'a conquise, c'est au tout début du film. T'as comme Julie et ses amis qui s'en vont. Ils veulent jouer au soccer dans un terrain vague. Ils vont croiser un gars qui gratte sa guitare dans les estrades. On sait pas trop ce qu'il fait. Là, puis là, il se met un peu à leur parler. Puis tout le monde se connaît. C'est une petite ville. On est en région. Puis tu connais un peu tout le monde. Puis il est comme, OK, viens jouer avec nous autres. Il nous manque un joueur. OK, tout ça. Et là, c'est aussi simple qu'ils doivent traverser la clôture pour aller sur le terrain. Puis cette scène-là dure vraiment longtemps. Puis ils sont pas capables. Ils l'ont pas du premier coup. Tout le monde parle en même temps. S'engueule. Non, c'est pas comme ça. Fais attention. Ah, oh, tu me fais mal. T'sais. Puis ça, c'est vraiment crédible. T'sais, parce que t'es des ados qui flânent. Puis oui, ça perd du temps en niaiserie. T'sais. Alors que dans un film plus scénarisé, classique, on va dire, ben tout le monde aurait franchi la clôture du premier coup. T'sais. Donc. Juste ça, tu sais, j'ai vraiment trouvé que c'était une approche intéressante avec le film et ça m'a vraiment touché, notamment parce que pour notre génération, tu sais, ceux qui ont grandi en région au Québec dans les années 90, ben c'est vraiment authentique là, avec toutes les petits détails de props, d'accessoires, d'habillement, de t-shirt humor design et compagnie. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Un gros coup de cœur, c'est mon film du festival là, Carnaval.
Ah oh oui, carrément. Hein? Même parmi les films aussi internationaux, parce que je sais que tu en avais vu quelques-uns qui t'avaient. Toi, en général, tu as eu plus de bons coups que de moins bons coups, là, de ce que je semble comprendre. Tu as comme
Ben,
apprécié
c'est-à-dire
une
que
grande
j'ai.
majorité des films que tu as vus.
Ben, une grande majorité, je dirais pas ça.
Ben, une des.
J'aime mieux parler des films que j'ai beaucoup aimés que des
Ouais,
films qui m'ont
évidemment, clairement.
déçu, là. Parce que, mettons, bon, vivre à 100 000 à l'heure, c'est un peu un faux pas pour Louis Bélanger, là.
Ah ouais, ok, carrément.
Ouais, on est un peu tous déçus, là, du film, là, autour de moi. Fait que bon, c'est bien, là, c'est très accessible. Ça fait un peu la version TVA là, du Wolf of Wall Street. C'est un peu trop propre, un peu trop. C'est ouais, c'est comme avec une espèce de narration à la Troji, quelqu'un qui te raconte ton histoire dans ses souvenirs, mais un Troji genre pas drôle. Là, fait que ouais, ça c'est assez décevant. Non, il y a plein de films comme ça que j'ai quand même moins aimé. Mais sinon, le gros film international que j'ai vu, ben, il y en a quand même beaucoup que j'ai eu des très bonnes surprises. Take Me Somewhere Nice, c'est super cool. Mais le gros coup de poing, là, c'est For Sama, documentaire qui était à Sundance, qui était primé, qui va assurément se retrouver aux Oscars, là, d'après moi. Là.
Ah oui, c'est ça.
De Wahad Al-Kateyab, qui est donc elle qui a également filmé le film, et Edward Watts. Et ça, en fait, c'est Siri sur 5 ans. Une jeune révolutionnaire qui vont donc s'établir à Aleppo lors de la révolution, tout ça. Et elle va vouloir faire un journal, bon, d'abord pour documenter ce qui se passe, pour être sûr, tu sais, comme moyen de résistance et tout ça, pour y avoir des preuves, tout ça. Parce qu'eux, ils sont bombardés, puis tu sais, de plus les années passent, plus le régime devient comme un peu totalitaire, tout ça. Bon, je suis pas un spécialiste, là, ce conflit-là, mais ça brasse, là, tu sais, puis il y a des segments, là, tu sais, t'es dans un hôpital, là, puis tu marches avec ton sel, puis soudainement, Il y a un mur qui s'ouvre devant toi parce que tu viens de te faire bombarder. Là, c'est dur comme film. Là. Puis c'est nécessaire en même temps de montrer ces atrocités-là, tu sais, parce que ça te fait brasser un peu ton quotidien de Québécois dans un pays libre, tu sais, qui n'a pas de guerre en ce moment. Tu sais, c'est tough.
Ah oui, non, c'est clair.
Et elle va donc, au fil des années, c'est qu'elle va tomber enceinte. Et elle veut continuer à rester sur place parce que sinon, elle se dit quel exemple on va donner à nos générations futures, tu sais. Et c'est sûr que rétrospectivement, c'est facile de juger un choix comme ça, mais à l'époque où elle reste, elle croit que ça va potentiellement se finir demain, le conflit, on ne sait jamais. T'sais. Donc là, elle fait une espèce de ça, carnet filmé pour sa fille en train de naître, on la voit enceinte, on la voit qui a son enfant, tout ça. Puis c'est tellement déchirant, puis c'est tellement beau, puis c'est du cinéma, là, c'est plus grand que tout. Là, un film comme ça, tu dis, ça doit faire bouger les choses. Là, puis c'est tellement déchirant parce qu'à un moment, justement, évidemment, elle a des doutes là, en tant qu'activiste, que révolutionnaire, tout ça. Puis à un moment, elle se filme parler à la caméra, parler à sa future fille, Sama, lorsqu'elle sera en âge de comprendre tout ça. Puis tu sais, elle va dire des choses comme « J'espère que tu me pardonnes de t'avoir mis au monde. » Puis tu sais, hey, pour vrai, là, genre, entendre ça, ça... dans la salle, là, j'étais en train de pleurer, là, c'est fou, là, tu sais. Puis ça fait vraiment, ça rend humble. Ça rend humble, ce genre de film. C'est dur à regarder. On apprend rien. Ben, on apprend rien. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, je veux dire, de dire
on
que...
On est
la...
témoin d'eux, ouais. Tu sais, c'est ça, on est témoin, là, ouais, c'est ça.
Puis le film, ça c'est des images glanées, là, sur cellulaire, là, c'est un montage de tournage un peu, tu sais, mauvaise qualité entre guillemets, mais ce que ça dit, c'est plus puissant que tous les autres films cette année. Mm. Donc c'est sûr qu'il va sûrement avoir une campagne pour les Oscars. Je suis convaincu qu'il va sortir en salle éventuellement. Puis si vous aimez un minimum être informé un peu de ce qui se passe, tout ça, méchant film Testament. Là. Ça, c'est ouais, un gros, gros film. Tu sais, qui potentiellement là, se place aux côtés de, tu sais, des gros documentaires là, qui ont fait bouger les choses. Là. C'était quoi là, le film là, tourné pendant le printemps égyptien là, The Square?
Il y avait The Square, ouais, c'est ouais, ça.
Tu sais, ce genre de film-là comme important. Là, que, ouais. Donc voilà, ça c'était pas mal mes coups de cœur du FCVQ. Est-ce que tu voulais nous parler un peu de Girl Walks Alone at Night? Ou y en a-tu d'autres que t'avais vu aussi?
Ouais, ben,
t'as vu Il pleuvait des oiseaux également, qui était le film d'ouverture
ouais, du FCVQ. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, je pensais finir avec ça. Je vais accrocher les deux, puis ce sera ça. On va te laisser te reposer puis prendre des vitamines.
Ouais.
Non.
Des pastilles.
Je vais finir mes valises. Ouais, oui, effectivement. Moi, j'ai pas été aussi longtemps à Québec parce qu'il faut dire que toi, tu as été au festival quasi intégralement.
Ouais.
Dans mon cas, ça a été beaucoup plus bref, mon séjour à Québec. Là, je pouvais seulement le temps d'un week-end. Et c'est ça. Puis j'avais le film de Anna Lily Amirpour, coproduction irano-américaine. Donc déjà, c'est rare. Puis surtout avec le contexte socio-économique, le contexte actuel... c'est pas près de récidiver, disons. Donc déjà, une curiosité à même sa genèse. Et oui, c'est un film genre de vampire féministe iranien. Donc en soi, ce one-liner-là...
En noir et blanc.
Ouais, c'est ça, en noir et blanc. Puis l'image forte du film, qui est même sur le poster décliné dans les designs et tout ça, ben c'est cette, vampire jouée par... elle s'appelle Sheila Vand. Et tu sais, elle est c'est plus... C'est, mon Dieu, c'est plus qu'un voile, c'est la chador, je pense. Bref, mais tu sais, c'est elle a... Donc, tu sais, recouverte, elle a pas évidemment le visage couvert, mais tout le reste, si on veut. Et déjà, ça lui fait une silhouette, entre guillemets, t'sais, distinctive, dans le contexte des films de genre, hein, évidemment. Là, je parle dans le contexte des films de genre. Et puis, je sais pas si juste cette image-là, avec l'aura noir et blanc du film, puis ce qui m'a vraiment surpris, disons que je veux juste dire ça, parce que je pensais que ça allait être un film, peut-être, et à tort, je pensais que ça allait être un film plutôt austère, finalement. T'sais, je pensais que... un peu artsy, un peu contemplatif, tout ça, tu sais, un film de genre, mais un peu off, tu sais, qui je sais pas, qui aurait réussi dans ses temps, justement, dans ses offbeats, plutôt que dans ses moments plus vivants, plus vibrants, bon, tout ça. Puis finalement, la première affaire qui saute aux yeux dans A Girl Walks Home Alone at Night, c'est Ben déjà, la typographie, on dirait que t'es dans un western spaghetti là, à la Léoné, sur écran. Ensuite, t'as comme les choix musicaux. Je veux dire que c'est un film plus cool que les derniers Tarantino, là. T'sais, je sais pas comment le dire. Ça m'a abasourdi à quel point c'était un film cool. Genre, beaucoup de haut. C'est vraiment. T'sais, juste la séquence générique, il y a des plans campés, il y a comme des gros ailes stylistiques que j'étais comme. Ah oh, ouais, j'étais pas prêt à recevoir ça, mais je dis ça extrêmement positivement. C'est un film qui s'amuse. Il y a toujours des petites idées. Je sais pas, mettons, il débarque dans la chambre. Il y a comme le protagoniste masculin là, qui s'appelle Arash dans le film. Et le comédien s'appelle aussi Arash quelque chose. Arash, ouais, Marandi. Il se ramasse à un moment donné. Il y a comme un peu une histoire d'amour qui se décline, mais j'en dirais pas tant, là. C'est pas un film tant synopsis, c'est vraiment un film d'ambiance. Juste, il débarque dans la chambre de la vampiresse. Puis, il y a comme une boule disco. Puis là, il est comme. En plus, il est comme drogué, là. Il sort d'une soirée d'Halloween. Fait que lui-même, déguisé en Dracula. T'sais, déjà, il y a comme. Bonnes idées sur bonnes idées qui fait que ça, à un moment donné, ça en devient quasiment orgasmique. Puis là, il commence à genre à jouer avec la boule disco, puis juste les jeux de lumière, puis t'as la vampire qui cache qu'elle est vampire, t'as lui qui est déguisé en Dracula. C'est comme. Il y a tellement de bons. Tu le sens que c'est un scénario qui a été mûri. Probablement, je connais pas l'histoire derrière la genèse de ce film-là, mais probablement que ça a pris le temps que ça a pris avant de se mettre sur les rails. C'est quand même une proposition très audacieuse. Le film est sorti fin 2014, là où peut-être les horreurs indie commençaient à avoir de plus en plus la cote, donc je pense que c'est pas un hasard, mais on sent le scénario extrêmement mûri, on sent que c'est un film qu'il fallait qu'il sorte là, d'une certaine façon, puis écrit, réécrit, réécrit, puis finalement d'une maîtrise surprenante, mais en même temps doublée d'une genre de fougue d'un premier film qui défonce la baraque. Ouais, c'est... Puis il y a comme un côté rétro, les choix. Comme je disais encore une fois, les choix de musique. La comparaison avec Tarantino semble farfetch, mais je vous jure, ça l'est finalement pas tant.
Fait que c'est plus à classer du côté du film de vampire de Jim Jarmusch que.
Oui, exactement, exactement. C'est vrai. En plus, oui, absolument. Que d'un film qui se voudrait soit terrifiant ou soit un peu plus artsy ou carrément plus difficile. Tu sais, il y a beaucoup de femmes, hein, de jeunes réalisatrices qui font de l'horreur, puis fichtrement dans les dernières années, puis de très bonne façon. Bon, juste Grave qui pourrait nous venir en tête rapidement comme ça, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer. Bon, mais celui-là, il est comme à part. Il y a comme un côté vraiment joueur, il s'amuse des codes, toutefois sans les répliquer. Puis tu sais, des fois, c'est ça le problème avec des films de genre qui aiment trop les films de genre aussi. Tu sais, finalement, ça fait tellement dommage à tout que le film commence à devenir un rien. Mais celui-là, il est extrêmement unique. J'en suis ressorti plein, c'est copieux, c'est le fun. Puis en plus, c'est comme ce sera de tout temps cette espèce de film ovni irano-américain. Tu sais, parce qu'ils l'ont pas tourné à Téhéran, là. Je pense qu'ils l'ont tourné, je pense, à Détroit. Je pourrais me tromper, ça aussi, là. Mais il y a quelque chose de très low budget, quasiment un peu théâtre vaudeville. T'sais, les mêmes personnages reviennent souvent, puis tout ça, mais en même temps, c'est masqué par. Les bonnes décisions de mise en scène, de cadrage et tout ça. Puis c'est finalement, ça redevient charmant là, que ce soit finalement très peu de personnages, dans très peu de sets, mais c'est ô combien charmant et efficace. Non, moi vraiment, j'ai que des bons mots à dire. Pour vrai, je m'attendais pas à aimer ça de loin. Je m'attendais pas à aimer ça autant que j'ai aimé ça. Donc, définitivement, prochain Halloween là, qui s'en vient, là, c'est un film de fun, c'est un film de gang. Mettez ça dans votre soirée d'Halloween, les chums, là, c'est
Cool.
vraiment, vraiment trippant. Puis peut-être un petit mot pour finir sur Il pleuvait des oiseaux qui ouvrait hein, cette édition du Festival Lève le Québec. Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault.
Qui d'ailleurs à l'affiche, j'ai plus qui a fait un excellent départ.
Excellent départ au box-office, oui.
Souvent, puis c'est la même chose là, aux États-Unis avec. Il y a eu genre Downton Abbey là, qui est comme était le numéro un peu surprise, mais tu sais, des fois c'est un marché un peu qu'on néglige. Puis tu sais, pourtant, quand tu es dans les salles de cinéma, là, il y a quand même beaucoup de têtes blanches, là, dans le sens que des fois ça fait pas de sens à quel point il n'y a pas beaucoup de films sur avec des personnages âgés. Tu sais.
Ben surtout, puis en plus, il y a un débalancement clair. Puis en plus, c'est drôle, un peu, je paraphrase quasiment un peu un texte de Jason Béliveau, là qu'on salue s'il nous écoute. Mais tu sais, c'est en plus le cinéma québécois qui, ces temps-ci, est clairement débalancé vers les films de la jeunesse. Là. Ouais. Tu sais, même que là, on commence à faire ouais, ouais, c'est bon. Là, tu sais, ça existe des protagonistes qui ont plus que 20 ans ou plus que 18 ans. Tu sais, comme, c'est à la limite, en ce sens, ça faisait pas film vieux. Ça faisait quasiment du bien, finalement, d'avoir le trio de comédiens ben, âgés, oui, joué par André Lachapelle, Gilbert Scott, Rémi Girard. Je vous fais un synopsis très rapide, puis je passe un peu en coup de vent dessus, mais c'est donc deux... initialement, trois ermites dans une séquence d'intro qui nous rappelle un peu quasiment du Carlos Regadas, le flottant, dans tous les sens du terme. En plus, ils sont genre dans un lac, puis ils font juste comme... vivre en communion avec la forêt, la nature, qui, parenthèse, est très bien rendu. C'est un film qui est très texturé au niveau sensoriel. Tu sais, les bons choix, les bons vents, les feuilles, on dirait qu'on sent la forêt. Tu sais, quelque chose de très, très réussi là, dans ce portrait-là de nature, à tout le moins. Et là, de ces trois ermites-là, puis là, je vous raconte vraiment juste la séquence d'intro, l'un de ceux-là décède, parce que ben c'est l'ordre naturel, c'est le cycle de la vie, comme dirait le roi Lion. Et Gilbert Scott, Rémi Girard demeurent seuls, mais pas bien longtemps, parce que leur vie paisible va être un peu chamboulée lorsque le personnage d'André Lachapelle croise un peu leur chemin. Ça non plus, je ne voudrais pas trop un peu comment ça se passe, mais disons, le personnage d'André Lachapelle, elle a quand même une histoire très différente, radicalement différente des deux autres personnages, qui ont chacun un peu leurs démons, c'est des personnages meurtris, Rémi Girard et Gilbert Scott, mais elle, peut-être encore plus, parce qu'elle a passé sa vie dans des institutions psychiatriques contre son gré. Et puis là, elle se retrouve au crépuscule de sa vie à vivre quelque chose de radicalement différent, une genre de liberté nouvellement acquise aux côtés de ces deux hommes-là. Et fait qu'une renaissance, là, carrément, qui se décline tout le long du film. Parallèlement, il y a le personnage de Ève Landry qui fait un genre de photo-reportage sur des feux de forêt absolument dévastateurs là, dans le coin de l'Abitibi. Je pourrais me tromper, mais je pense que c'est l'Abitibi. Et donc, va faire un peu du photojournalisme, documentaire, elle fait des rencontres avec des gens, puis elle veut absolument trouver là, l'un de ces ermites-là pour lui poser des questions, parce que c'est un de ces hommes-là avait avait pris une grande part là, aux événements du passé. Et puis là, elle veut déterrer tout ça, elle va un peu troubler leur mode de vie paisible. Puis, elle va tomber sur Steve, notre ami Steve, joué par Eric Obidou. Steve, qui est genre un tenancier d'hôtel où il n'y a plus personne dedans. Mais Steve, là, il a de l'air d'un gars qui a pas sorti ses pieds du plateau de Mont-Royal. Là. Genre, je crois tellement pas. Je suis désolé, Eric Obidou, là, c'est peut-être pas de ta faute, là, mais quel miscasse total. Juste la façon comment il s'exprime, tout ça. Tu sais, montre-nous de la région profonde, genre. Puis là, c'est comme, t'as Ève Landry qui joue la Montréalaise, mais finalement, qui parle avec le dude qui est censé être fin fond du bois, puis qui a l'air plus montréalais qu'elle, là. Ouais, ça, pour vrai, là, c'est une faute de goût totale. Mais bon, puis il y a comme une genre de pseudo, quasiment romance, là. Disons, ça existe, là, en parallèle, là, leur trame à eux deux, mais c'est vraiment... toutes mes critiques, en guillemets, négatives sur le film sont... finalement, sur la side story que sur l'histoire principale.
T'aurais préféré qu'on reste centré sur ces personnages-là?
Ben, sur nos ermites, là, c'est eux qui jouent le mieux, qui ont la profondeur émotive pour que le récit se tienne. Puis même sur les posters, sur les annonces promo, c'est vraiment eux. Louise Archambault le sait que le film tient sur les épaules d'André Lachapelle, Gilbert Scott, Rémi Girard, tout ça. Donc, ouais, je dirais, c'est un film qui prend un pas en arrière, je disais quasi systématiquement, là, lorsqu'on s'écartait là, du cœur du récit. Donc, film quand même de plus de 2 heures, c'est pas sans longueur, mais oui, j'imagine que c'est au diapason du rythme vécu par les personnages. Donc ça, on le pardonne. Tu sais, c'est ça, regarde, je suis un peu à demi-mesure dans ma critique, parce que la réalité, c'est que j'ai trouvé ça bien sans plus. Je pense que, par contre, c'est loin d'être mauvais. Est-ce que ça m'a touché? Ça a quand même son lot d'émotions. Le film converge définitivement quelque part. Je pense que la finale est quand même puissante. Pour s'y rendre, le chemin est chaotique un peu. C'est ça, on s'y égare pour s'y retrouver, oui, peut-être, mais je pense quand même que ça aurait gagné à être un petit peu plus, à focaliser sur le cœur et non sur ce qui se passe tout autour. Bon, bref, mais qu'un film comme ça soit le succès, oui, entre guillemets, peut-être surprise qu'on voit au box-office, je trouve ça bien. Il y a une sensibilité. Moi, j'ai trouvé, pour la petite comparaison, je trouve que c'est quand même un net pas en avant par rapport à Gabriel. J'ai quand même beaucoup préféré Il pleuvait des oiseaux à Gabriel, qui m'avait laissé un peu de glace à l'époque. Ouais, c'est ça. À défaut d'avoir des grands moments de cinéma, il y a une belle émotion qui se bâtit, qui se construit, puis qui converge quelque part. Donc, ce sera ma critique un peu 6 sur 10 de Barely, là, de Il pleuvait des oiseaux, ouais. Pour moi.
Et Louise Archambault a un nouveau film aussi qui sort bientôt. Là. Elle a comme deux films cette année. Là.
C'est ça. Hasard de circonstances, parce que quand même, Gabriel, hein, je l'ai dit, mais c'est ça, ça fait quand même 6 ans déjà. Ouais. Puis là, il y a comme ces deux films-là qui voient le jour. Entre-temps, hein, c'est gardé active, là, elle réalise beaucoup de télé. T'sais, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui est resté patiemment à attendre chez elle là, les subventions, là, clairement. Mais ouais, c'est ça, il y a un autre film. Le titre m'échappe, par contre, je sais plus.
Ouais, je l'ai pas sous les yeux, mais...
Je l'ai pas sous les yeux non plus, mais ouais, c'est ça, on va revoir du Louise Archambault plutôt que tard prochainement. Puis ben, c'est sûr, comme je disais, je peux pas me formaliser que ce soit un succès populaire, là. Un peu de la façon qu'un film comme La Passion d'Augustine, qui est sans nécessairement me attiser là, mon air de cinéphile aguerri, je sais pas quoi, là, c'était quand même un beau film rassembleur, puis on se réjouit quand des films comme ça trouvent leur public aussi d'une certaine façon. Puis un autre public, là, il y a d'autres publics que le public montréalais, jeune, hip, donc cinéphile, ouais, et tout, ouais. Donc c'est vraiment super. Voilà.
Rapidement, Raphaël Pascal, est-ce que oui ou non, est-ce que ça vaut la peine de louer Aladdin?
Ça t'a surpris, hein, que j'ai regardé ça. Oui. Hey, je voulais tourner mon cerveau à off, là, total. Puis, ben, c'est ce qui est arrivé. Ça vaut-tu la peine? Je pense que j'ai peut-être préféré ça à Beauty and the Beast, par contre. Parce que Beauty and the Beast, si on est pour comparer le nouveau plan de conquête du monde de Disney, là, de tout refaire ses crises de films en prise de vue réelle. Écoute, c'est un film qui est tellement kitsch. Tu roules tellement des yeux. Puis, le plus gros péché d'un film comme Aladdin, là, c'est, tu sais, mettons, là, Mena Massoud là, qui joue Aladdin, puis c'est Naomi Scott qui joue Jasmine, puis même le Jafar, là, attends, je l'ai sous les yeux, Marwan Kanzari qui s'appelle, sont comme trop beaux, là, tu sais, c'est comme genre, oui, c'est un conte des mille et une nuits, c'est Aladdin, je sais pas, tu sais, puis c'est Disney, ça vend du rêve, mais c'est vraiment, là, genre, des belles personnes, là, qui disent des belles choses, là, puis tout est trop... Non, mais je sais pas, ça manque de grit, puis ça serait jamais... On peut pas demander ça à Disney, mais là, ça a comme franchi une ligne, là. Mm. Puis, tu sais, mais en même temps, il y a comme des...
Darren Aronofsky, Aladdin.
Ouais, non, c'est ça. Hey, ouais, ça, je paierais pour voir ça, man. Mais bon, un film d'Aladdin, d'Aronofsky. Non, mais, tu sais, c'est sous vide, là. C'est vraiment sous vide, puis... En même temps, les numéros musicaux ont le bon ou le mauvais goût, hein. Puis encore une fois, je me demande de savoir si c'est un bon goût ou un mauvais goût. Mais tu sais, ça essaie un peu d'être bollywoodien, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est comme là où j'ai catché le ton du film, plus. J'étais comme, bah, ok, ouais. Dans une optique un peu autoréférentielle, bollywoodienne, wannabe, j'accepte déjà mieux tout le kitsch, on dirait, comme s'accorde. Puis ultimement, c'est un peu ça qui a fait que j'ai quand même passé du pas pire temps. mais vraiment, là, c'est tout ce que ces films-là font, c'est de te rappeler à quel point les films d'animation, oui, fonctionnaient bien. Ouais, ouais. Puis ce film-là fait pas exception. Bon, Génie, Will Smith marchait dans des grosses bottines, là, on le savait, là, après Génie, Robin Williams. Est-ce qu'il remplit son mandat? Un peu, peut-être. Mais tu sais, moi, quand Will Smith rappe, là, tu le sens, là, que c'est du capital de genre... Tu le sens que Disney fait rapper Will Smith parce que c'est comme, il faut faire rapper Will Smith. Puis ça en devient quasiment offensant, là, genre, oh. Mm. Tu sais, comme Will Smith, là, tu vaux plus que ça, je sais pas, là. C'est... Tu roules beaucoup des yeux, mais il y a comme un kitsch qui est charmant.
OK.
Regarde, ce sera ça, là.
Oui ou non, est-ce que ça vaut la peine de louer Apocalypse Now, Final Cut?
Ah, mon Dieu. Tristement, je dirais non. Hey. Parce que, ouais, un petit peu. Je trouve encore que la meilleure version d'Apocalypse Now demeure le theatrical cut. Okay. La version Redux était... On comprenait vraiment beaucoup comme pourquoi plusieurs scènes devaient être coupées. La version Redux par rapport à la version originale... La version originale dure 2h30, 150 minutes, si je ne me trompe pas. La version Redux durait 3h20. La version... Final Cut dure 3 heures, un quasi mi-chemin entre les deux versions. On pourrait se dire que ce serait donc la version parfaite, mais le gros problème du Final Cut, qui était le plus gros problème du Redux, c'est la crise de scène avec les Français, qui dure 20 minutes, puis qui arrive à un moment du film où on n'est absolument pas prêt à la recevoir. Elle arrive quasiment juste avant que, que le Capitaine Willard arrive pour retrouver Kurtz là, à la toute fin. Puis on est vraiment rendu dans un rabbit hole psychédélique là, dans ce moment-là du film. Puis il y a une grosse aparté avec les Français. Puis oui, je comprends politiquement. On veut rappeler aux Américains que c'est pas leur guerre. On veut taper sur un clou historique. On veut rappeler que, ben oui, le Vietnam était une colonie française. On veut rappeler plusieurs choses. On veut sortir les États-Unis de la tête dans leur cul. Je comprends politiquement. Puis, tu sais, c'est une scène qui est beaucoup trop longue, qui s'étire sur des monologues qui font, oui, énormément de sens, j'imagine, qui tiennent à cœur Coppola au niveau idéologique. Mais on comprend tellement, je sais pas c'est qui de ses amis proches. Parce que, tu sais, de cette gang-là, là, tu sais, qui se brassait, là, les George Lucas, puis les Coppola, Scorsese, tu sais, on sait qu'ils étaient tous très, quasiment violents, là, les uns avec les autres, quand ils faisaient leur test screening, puis qu'ils se montraient les cotes et tout ça, puis on dirait que je peux juste me ramener en 78-79, puis je sais pas qui, ou c'est peut-être Walter Murch, je sais pas c'est qui de cette gang-là qui a dû dire à Coppola, ta crise de scène avec les Français, garde-la au vidange. Puis là, il la ressort en 2019, là, dans une version qui est comme... Moi, là, je peux juste fantasmer après avoir vu le Final Cut d'Apocalypse Now de la version qui dure 2h40. C'est-à-dire, il y a une des scènes qui est ramenée dans le Final Cut qui est vraiment superbe. C'est la scène avec les Playmates. Là. Celle-là, elle a tout à fait sa place, je crois. Mais on dirait que je peux juste rêver d'une version de 2h40 d'Apocalypse Now, tu sais. Sors la scène des Français, donne-moi le Final Cut, puis fais juste sortir cette 20 minutes-là, là, puis boum, on a l'Apocalypse Now transcendant, parfait, on y touche plus. Donc, si j'ai à peser le pour et les contre, ouais, la version theatrical gagne. Hein? Comme quoi, des fois, le réalisateur n'a pas toujours raison.
Hein? Oui. Donc, ou non, est-ce que ça vaut la peine de louer Bodied de Joseph Kahn?
Ah oui, non, j'en dirais pas plus. Ouais, okay. Quand même, c'est vraiment de la bombe.
Oui, direct.
Okay. Ouais, c'est de la bombe, Bodied, checker ça.
Okay. Bon ben, Pascal Plante 2019, Apocalypse Now, non. Bodied, oui.
Non, don't get me wrong, tu comprends, Apocalypse Now, on se comprend.
Parfait. Bon, ben moi, ma voix me tarde de me quitter. Alors, on va se quitter également sur la bande-annonce du film Quispan de Myriam Véro qui prend l'affiche très bientôt. On vous encourage à aller le voir, ce film qui est très, très beau, notamment. Et c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau. J'étais avec mon collègue.
Pascal Plante sans Rémi Fréchette. Puis Rémi, ben, il se fait désirer. Puis prochain coup, il sera là avec nous.
Ici, Odinui Chiwan. Ça veut dire mon ami. Mais moi, je t'appelle Neshim. Comme une sœur.
Faudrait que t'aies ta maison à toi.
On va faire construire une maison.
Tu sais, avec un jacuzzi en plus.
T'as dit, mais t'as dit, que t'as moins toi de voler bon.
Voler bon. Salut.
Je vois qu'on a des nouveaux en plus. Que ça fait longtemps que t'écris.
Oui, quand même.
Le monde, t'es surpris là, de voir une fille de la réserve à l'atelier? Genre, on dirait qu'il se mélange pas à nous autres, là, les blancs. Arc. Ouais, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, hein. Ok, je recommence.
Pensais-tu que j'allais mettre du Cashton?
Ben quoi? C'est bon, du Cashton?
C'est qui, lui?
Un gars dans mon atelier.
Un blanc?
Ouh, un blanc. J'ai décidé de m'inscrire au cégep l'année prochaine à Québec. Francis, il vient avec moi.
On dirait que t'as plus de fierté.
C'est pas les autres qui ont changé, c'est toi! J'en ai plus assez pour rappel!
Francis, là, il me connaît mieux que toutes vos autres!
Si tout le monde, là, fait comme toi, on serait plus là.
On vient tellement de deux mondes, genre, totalement différents, là.
Mon centre du monde se situe dans une baie.
recouverte de neige 6 mois par année.
Je crois qu'il est possible, sans s'en rendre compte, que le lieu qu'on habite déteigne sur soi et d'accepter docilement que nous sommes nés sans envergure. La fierté est quelque chose qui se construit. Pour se tenir droit, il faut d'abord croire qu'on est légitime. Il faut peut-être d'abord connaître la captivité pour se figurer ce que c'est que la liberté.
Je veux pas être plate, mais ton popsicle, il me coule dans le dos.